Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. Pardonnez-nous pas dire autour de nous, pourquoi Dieu permet-il les guerres, les maladies ou la mort d'êtres chers? Apparemment, l'être humain semble obligé de subir ce que Dieu veut ou ne veut pas lui envoyer. Certains prétendent même que l'homme n'est en fait que l'esclave de son Créateur en ce qui concerne les décisions qu'il prend à son sujet. Cependant, quand on se donne la peine d'examiner le problème un tant soit peu objectivement, on est pratiquement forcé d'admettre qu'il ne s'agit là que d'une apparence fort trompeuse. Dès le commencement des temps, l'Éternel mit dans le cœur de la créature humaine un profond respect pour la vie d'autrui. Mais très tôt, l'orgueil et la jalousie prirent le dessus chez l'homme et le meurtre fit son apparition dans le monde. Dieu désirait par exemple que les hommes lui offrissent des sacrifices d'animaux. Abel se conforma strictement à cette volonté en offrant le premier-né de son troupeau. Caïn, quant à lui, décida, pour des motifs que nous ne connaissons pas exactement, mais où l'orgueil prédomine, de lui offrir des fruits de la terre. Non seulement il se permet de transformer à sa manière un ordre ou un désir de Dieu, mais de plus, il trouve anormal que l'Éternel jette un regard favorable sur l'offrande de son frère. Alors, poussé par une jalousie dévorante, engendrée par son orgueil blessé, il tue son frère. Non content de cela, il s'insurge encore contre Dieu qui lui demande « Où est ton frère ?» Et lui répond « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Il attaque pour se défendre. Et on sent déjà pointer en lui cette rancœur qu'il va partager avec ses semblables et qui va les pousser à rendre leur Créateur responsable de tous les maux. Voyons ensemble quelques chiffres. Lors de la Première Guerre mondiale, la seule bataille de Verdun a fait 1 million de morts. La Seconde Guerre mondiale a coûté la vie à 5 millions de personnes, sans compter évidemment les 6 500 000 hommes, femmes et enfants qui ont été massacrés dans les camps de concentration. Les Allemands cherchent toujours 1 200 000 de leurs soldats qui sont disparus sans laisser de traces. Tout cela est abominable, ne trouvez-vous pas? Saviez-vous que la seule bombe atomique lancée sur Hiroshima a fait 91 233 morts et 37 425 blessés? Durant les deux dernières guerres mondiales, les soldats allemands portaient des ceinturons de cuir sur la boucle desquels étaient gravés les mots « Gott mit uns », ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». Mais les autres belligérants étaient eux aussi persuadés de la présence de Dieu à leur côté. Tous priaient pour obtenir la victoire de leurs armes et la défaite de l'adversaire. Où se trouvait Dieu? À gauche ou à droite? Devant ou derrière? Avec l'un ou avec l'autre? Ne nous y trompons pas. Dieu n'était dans ce cas-là avec personne. Il était tout simplement contre ceux qui croyaient avoir le droit d'ôter la vie à leurs semblables. Dieu hait la guerre, la destruction et le meurtre. À Caïn, il disait déjà « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Dieu ne veut pas que le sang coule. Il interdit de tuer et de haïr. Nous avons pourtant tendance à croire qu'il ne fait rien pour empêcher tout cela, et que parce qu'il ne dit rien, il consent. La Bible tout entière crie et hurle même le contraire, mais nous ne voulons rien entendre. Si Dieu existait, il ne permettrait ni la souffrance, ni la maladie, ou la mort d'êtres innocents, proclame-t-on. Il est évident que bien des choses dans l'univers nous sont obscures et même incompréhensibles. Mais là encore, nous sommes prêts à blâmer l'Éternel alors que très souvent, nous sommes nous-mêmes directement responsables de ce qui nous arrive. L'être qui fume doit-il s'étonner d'être atteint d'un cancer du larynx? Quand on maltraite son corps d'une manière ou d'une autre, peut-on accuser Dieu de permettre que nous tombions malades ou que nous souffrions? L'adultère qui se trouve atteint d'une maladie vénérienne a-t-il le droit d'être amer vis-à-vis de son Créateur? Le menteur, l'hypocrite, le voleur. Ne souffre-t-il pas précisément à cause de la perversion qui a atteint son cœur? Je ne suis pas ici en train de prouver que nous sommes toujours directement responsables des choses qui nous arrivent. Il faut cependant admettre que les êtres humains sont bien plus souvent coupables que nous ne voulons l'avouer. Souvent, la mort nous paraît injuste, cruelle, mais elle non plus n'échappe parfois pas à la responsabilité des hommes. Dieu n'est pas responsable des excès de vitesse ou de l'ivresse au volant qui tue tant de gens innocents. Il n'est pas l'auteur du déséquilibre de la nature ou de la pollution des eaux, de l'atmosphère et même de la terre. Il a créé au contraire un univers qui est absolument merveilleux, où chaque chose était à sa place et où il y avait une place pour chaque chose. Qu'en a fait l'homme? Pour nous, la mort est cruelle et injuste. Si nous allons au fond du problème, on doit cependant réaliser que, contrairement à toute apparence logique, la mort n'est peut-être extrêmement pénible que pour ceux qui restent. On pleure souvent non pas parce que l'être qui nous était cher a disparu, mais plutôt parce que nous ne le verrons plus. Parce que nous ne pourrons plus lui parler ou l'aimer. La mort terrestre n'est pour celui qui a vécu selon la volonté de Dieu que l'entracte d'une autre vie bien plus belle, où les soucis et les contingences humaines n'ont plus cours. C'est l'antichambre d'une demeure céleste qui dépasse toute description des sens terrestres. L'Éternel est bon, juste et loyal vis-à-vis de nous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il nous a créés libres. Libres de vivre selon ce qu'il sait être la bonne solution pour nous, ou de passer notre existence terrestre en dehors de ses prescriptions ou de ses désirs. Pour le dictionnaire, la liberté représente la condition d'une personne qui n'est pas la propriété d'un maître. Le théologien protestant Charles Bibert dit que pour la Bible, est libre celui qui, créature de Dieu, est entré dans son alliance et brave toutes les prétentions totalitaires des hommes et du monde. La liberté, poursuit-il, est donc la condition de ceux qui sont la propriété de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu parce qu'il nous a créés à partir de rien. Et pourtant, il n'est pas notre maître dans le sens strict du mot. Un vrai maître, en effet, impose sa volonté de telle manière qu'on ne puisse pas faire autrement que de la suivre. Prenons le cas d'Adam. L'Éternel lui avait dit ceci. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais a-t-il lié Adam et Ève pour les empêcher d'en manger? Pas du tout. A-t-il placé les fruits de cet arbre tellement haut, de manière à ce qu'il ne puisse pas l'atteindre? Lui a-t-il donné un goût tellement âcre à ce fruit pour le mettre dans l'obligation de cracher la première bouchée? Non, il les a laissés libres. Entièrement libres. L'homme était également libre de ne pas se battre. Ni à Verdun, ni au cours de la Seconde Guerre mondiale. Libre de ne pas construire des camps de concentration. Libre de ne pas jeter de bombe atomique sur Hiroshima. Mais qu'a-t-il fait de ce merveilleux don de liberté qui lui a été accordé sans aucune autre contrepartie qu'un bonheur parfait et sans nuage? Adam et Ève mangent le fruit défendu parce qu'ils veulent être comme des dieux. Caïn tue son frère par orgueil, par jalousie. Après cela, le monde commence à se peupler. Mais très vite, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Ce fut alors qu'il dit à Noé, qui était juste et intègre à ses yeux, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Fais-toi une arche. » Lui aussi est libre. Il peut soit obéir et être sauvé, ou ignorer tout simplement le conseil de Dieu. Il choisit la solution du bon sens et applique à la lettre toutes les prescriptions. Les autres hommes auxquels il conseille de se repentir font la sourde oreille, et quand le grand jour arrive, ils sont détruits par le déluge. À partir de ce moment-là, tout va recommencer. Les hommes repeuplent à nouveau la terre, et Dieu va poursuivre la réalisation du plan de salut des êtres humains. Il crée une race élue, celle des Israélites, les protège dans les difficultés, les libère de l'esclavage dans lequel ils sont tombés à cause de leur désobéissance. Il les nourrit dans le désert, les abreuve, les habille, et leur donne enfin un pays magnifique pour qu'ils puissent y installer et vivre heureux au-delà de toute expression. Mais bientôt, ils veulent avoir un roi à leur tête, comme les autres nations qui les entourent. La protection et la direction de Dieu ne sont plus suffisantes. Dieu les prévient pourtant, et ses mots montrent encore une fois son inlassable bonté. Voici quel sera le droit du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sous ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la dîme des produits de vos semences et de vos vignes. Vous serez vous-même ses esclaves. Ils sont libres de leur choix. Qu'auriez-vous fait à leur place? Mais ils s'obstinent et choisissent un roi terrestre. Tout cela va les mener à l'idolâtrie. Leur merveilleuse unité va disparaître. Les 12 tribus d'Israël se séparent et bientôt se forment des clans. À cause de leur faiblesse organique, leurs voisins les attaquent, les emmènent dans l'esclavage. Tout s'écroule, tout disparaît. Sans doute pensez-vous qu'à leur place, vous n'auriez pas agi de même. Mais 20 siècles plus tard, Dieu s'adresse à chacun d'entre nous quand il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Nous sommes des êtres libres. Nous pouvons écouter ses enseignements ou, au contraire, rester insensibles à ses appels. Le Fils que Dieu a envoyé à l'humanité au premier siècle veut nous donner une vie qui sera éternelle, magnifique. À ceux qui ne la connaissent pas vraiment, il dit « Celui qui ne croira pas sera condamné. » Oui, nous sommes libres. Dieu ne nous force pas à croire que Dieu est son Fils bien-aimé. Pas du tout. Il nous dit qu'encore, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Nous sommes libres. Nous pouvons choisir entre continuer à vivre dans le péché ou au contraire, changer, nous transformer. Jésus proclame également, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oui, nous sommes toujours libres. Le salut est à notre portée. Dieu nous supplie de le prendre. Il nous l'offre gratuitement par sa grâce. Mais en voulez-vous? Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autres noms. Ils ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi, et surtout le Nouveau Testament, notre unique chef, Jésus-Christ, seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité de nous. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition. Sans engagement, écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, Cedex. Je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, Cedex, France. Au revoir, à la semaine prochaine. Même